Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir 18h04, vous le savez, c'est le moment de parler football pendant deux heures avec ce soir Jean-Louis Tour qui est parmi nous. Bonsoir mon Jean-Louis.
Bonsoir Dugas, salut tout le monde.
Salut l'ami, bienvenue.
Merci.
Nous accueillons également Eric Dimeco, bonsoir Eric.
Salut Dugas, salut Jean-Louis, salut à tous.
Bienvenue mon poulet, mon Jean-Louis, on a un gros programme.
Ouais, gros programme. Effectivement.
Beaucoup de choses à dire.
Avec un événement dans Team Dugas ce soir à 19h, France-Allemagne 82. On a fait pas mal de matchs historiques dans la mémoire du foot français. On n'a pas fait celui-là qui est peut-être le plus dramatique de l'histoire, donc
qu'on a revu en plus pendant le confinement.
Exactement.
C'est repassé, donc ça nous a bien rafraîchi la mémoire. C'était super.
On va y revenir donc en détail, ce match qui a traumatisé une génération entière. Si vous êtes trop jeune et que vous connaissez pas l'histoire de ce match, restez avec nous. Donc après 19h, on donnera en plus la parole aux Allemands avec Paulo Breitner, notre spécialiste du foot allemand, qui sera là parce qu'on le fait assez peu quand on raconte ce match à chaque fois. À 18h30, le dossier Mbaye Niang. Le joueur n'exclurait pas désormais de rester à Rennes après avoir voulu aller à Marseille. Est-ce qu'il s'y est mal pris, Mbaye Niang? Le débat à 18h30 avec en plus nos infos sur le dossier. Mais on va commencer donc par un serpent de mer dans Team Dugas. La Ligue 1 affaiblit-elle le PSG? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. On se pose la question à cause de deux déclarations qu'on a pu lire ces derniers jours. Javier Pastore, tout d'abord, l'ancien joueur du PSG, qui a déclaré « En Ligue 1, les matchs sont pliés en première période et vous ne continuez pas sur le même rythme pendant 90 minutes. C'est pourtant ce que réclame la Ligue des Champions. En France, tu peux passer un mois entier à jouer des équipes qui t'affaiblissent. » Autre déclaration, hier, celle de Luka Modric, le Ballon d'Or, concernant Kylian Mbappé. Il dit « Il doit rejoindre un championnat où il ne gagne pas les matchs aussi facilement. » Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que, Dugas, la Ligue 1 affaiblit-elle le PSG?
Non, mais je sincèrement, je ne le comprends pas. Et alors, à la rigueur, je veux bien entendre, parce que peut-être que ceux qui le disent ont peut-être raison, mais j'essaie d'entendre et d'écouter les arguments, mais malheureusement, j'en vois pas beaucoup à chaque fois. Il y a souvent d'autres équipes dans d'autres championnats qui ont dominé assez facilement leur compétition nationale et qui ont été loin en Ligue des Champions. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a dû batailler sous l'ère Qatari deux fois pour gagner le titre, et ils ne l'ont pas gagné. C'était face à Montpellier, quand Montpellier a été champion, et Monaco, c'est pas pour ça qu'ils ont été plus loin dans la Ligue des Champions. Donc voilà, je trouve que c'est trop facile de taper sur la Ligue 1, même si je suis le premier à le faire sur sa qualité de jeu. C'est un championnat qui n'est pas spectaculaire, mais qui est parfois difficile. Beaucoup de joueurs étrangers sont venus s'y casser les dents et ont été surpris de la difficulté de ce championnat à s'exprimer, à développer du jeu. Un championnat très très physique, très rude. Alors c'est vrai que parfois les matchs pour le Paris Saint-Germain sont faciles, mais vu l'armada qu'ils ont, le contraire serait étonnant. Aucune équipe de Ligue 1 ne pourrait rivaliser, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Donc je trouve que c'est un petit peu facile, et c'est aussi facilement dédouaner les joueurs qui n'ont pas réussi, à au moins aller en quart de finale.
Oui, c'est une excuse facile.
L'excuse elle est facile parce que justement, quand t'as affaire à un championnat où il y a une forte inégalité, et ben c'est à toi de mettre un petit peu plus de d'intensité dans les matchs, de pas te contenter de mener 2-0 au score et de vouloir en mettre peut-être un quatrième, un cinquième, un sixième quand c'est possible. Voilà, c'est un travail mental qui est à effectuer tous les jours à l'entraînement, qui est certes pas facile, c'est vrai, mais c'est le travail au quotidien du staff, des joueurs, et je pense que c'est trop facile de se servir de ça comme excuse. Et sincèrement, les arguments qui sont à chaque fois déployés, moi, ne me sautent pas aux yeux pour expliquer que si le Paris Saint-Germain n'a jamais fait une demi-finale Ligue des Champions, c'est la faute à la Ligue 1. Je trouve que c'est trop simple comme explication.
Oui, pour aller dans ton sens, avant de donner la parole à Eric, un argument de plus que t'as pas développé, ça a pas empêché le PSG de faire de grands matchs aussi parfois en Ligue des Champions. La victoire contre le Barça aussi, 4-0 à l'aller, c'était dans la même Ligue 1 que celle dans laquelle joue le PSG quand il perd en Ligue des Champions. Eric, qu'en penses-tu, toi? Comment tu te positionnes?
Moi, je pense que ça aide pas. C'est clair que même s'il y a des championnats où il y a des équipes qui dominent peut-être autant que le PSG, j'ai quand même l'impression qu'il y a des matchs un petit peu plus, notamment dans l'intensité, plus disputés qu'en France. Moi, je vais trouver, pour te donner un argument, Dugas, puisque tu en demandes.
Vas-y, Eric.
Tu sais, l'âge d'or de la France dans les Coupes d'Europe, c'est les années 90, celles qu'on a connues. Eh ben tu regardes.
Monaco. Alors qu'un avion décolle à côté de l'Andoum.
Ah, ça, c'est pas moi. Hein.
C'est non, c'est pas un avion privé, excuse-moi. J'ai prêté un copain qui part faire la fête à Saint-Tropez, donc je lui dis tu peux y aller, tu me le rendras demain.
Que si je me souviens bien.
Ça s'appelle Franck Leboeuf. Hein.
De tête vite fait, Monaco doit faire 4 demi-finales de Coupe d'Europe pendant les années 90, une finale. Ouais. Bordeaux, vous faites quoi? Vous faites finale.
À Bordeaux, c'est plus les années 80. Mais il y a la finale de
96. Oui, voilà, il y a la finale quand même. Moi, je pense ces années-là qui sont quand même l'âge d'or du football français, puisque Paris doit faire 3 demi-finales, 4. 2 finales avec une victoire.
Il y a 4 demi de suite au moins du PSG. Ouais.
Voilà, donc preuve que à l'époque le football français était au très haut niveau européen. Ces équipes-là se jouaient toute l'année en championnat et je reste persuadé, puisque c'était des équipes fortes, il n'y avait pas encore Larry Bosman notamment avant 96, et donc les internationaux étaient à Bordeaux, à Paris, à Monaco, à Marseille, de partout, à Auxerre aussi, puisque même Auxerre faisait des campagnes, Nantes aussi bien sûr, voilà, j'essaie d'oublier personne.
Ouais, mais tu veux dire que c'est là où le championnat était le plus fort,
bien sûr,
on est allé le plus loin en Coupe d'Europe.
Bien sûr, c'est quand toutes tes internationaux étaient en France et que ton championnat était disputé,
mais, et que forcément dans ce sens-là qu'est la réflexion. Évidemment, si le championnat est fort, t'as plus de chances d'aller loin en Ligue des Champions. Mais si le championnat est faible, c'est rédhibitoire en Ligue des Champions.
Alors, surtout vu le niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Eric. Alors, tu parles des années 90. Le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, je pense, battrait les équipes de ces années 90. Elles étaient certainement.
Ah bah non, je suis pas d'accord.
Non, tu crois pas?
Moi, je suis même pas sûr qu'ils battent le PSG génération Ricardo, Ginola et toute la compagnie.
Ah,
je suis pas sûr. Moi, je pense que mentalement et physiquement, je pense qu'il se serait fait grave bouger. On en a parlé l'autre jour dans le Moscato Show.
Il y a les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui au Paris Saint-Germain. À l'époque, au Paris Saint-Germain, il y avait d'excellents bons joueurs. Les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Oh ben il y en a un paquet quand même. Thiago Silva fait partie des meilleurs défenseurs du monde.
Ricardo non plus. Non, à l'époque.
T'as un gardien qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions. T'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Cavani, t'as quand même des joueurs. T'as Di Maria, t'as quand même des joueurs de très très haut niveau. Enfin,
la seule question, c'est s'il y a un duel Mbappé Dimeco.
Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. C'est pas le débat. Après là où tu as raison, c'est que même si ton championnat s'est affaibli et même si tu domines ce championnat, il faut être capable, et c'est là justement où je ne suis pas d'accord avec toi sur là quand tu dis les mecs qui sont forts. Mais non, mais les mecs qui sont forts, tu les vois quand ils font le job toutes les semaines, que ce soit facile ou moins. Et moi, je trouve que mentalement, c'est là où peut-être il y a un gros problème. Quand tu domines comme ça, tu dois être capable d'aller chercher 90 minutes à fond pour justement te préparer pour les matchs de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que moi,
j'aurais été capable de le faire sur certains matchs. Donc c'est trop facile de dire parce que 3 jours après, mais sur certains matchs de Ligue des Champions, ils ont été capables de mettre cette intensité-là. Après, ils sont pas capables de la reproduire. Mais c'est leur faute. J'ai envie de dire, ils sont même un peu plus frais. Ils gardent de la fraîcheur parce qu'ils ne sont pas toujours en train de batailler tous les 3 jours. Ils arrivent à garder un peu de fraîcheur.
La réalité des dernières années, c'est même pas un an, c'est même pas 2 ans. C'est bientôt combien maintenant 8 ans.
8, ouais. Ouais.
C'est-à-dire 8 ans qui dominent. Alors même, tu vas me dire, une année se sont fait accrocher et tout et tout. Il n'empêche que sur le championnat.
Montpellier, Monaco.
Mais il n'empêche qu'en 8 ans, quand tu ne sors pas des quarts de finale une seule fois en étant soi-disant aussi fort et en dominant autant ton championnat, ça veut dire qu'il y a un problème récurrent au niveau de ta compétition nationale.
Ou de ta préparation, Eric. Ou peut-être de leur préparation, de leur investissement.
Tu as dit qu'ils étaient plus forts que ma chaîne.
C'est que mentalement, ils n'en mettent pas assez. C'est que dans leur préparation mentale, physique, ils n'en font pas assez.
Et est-ce que quand un week-end sur deux minimum, il faut que tu ailles puiser pour aller gagner des matchs contre des équipes qui sont aussi fortes que toi, est-ce que c'est pas là que tu travailles physiquement 90 minutes au lieu de faire 60 minutes et que mentalement tu travailles ton mental? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas dans l'adversité que tu le travailles, ça?
Ben, c'est à eux de s'imposer une adversité, c'est à eux de travailler sur leur mental, c'est quand ils gagnent 2-0, 3-0 sur un match qui, c'est vrai, est facile, et bien essayer de continuer pour en mettre peut-être 6, pour en mettre 7. Après, il y a un travail mental à faire. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est vrai que ça serait peut-être plus facile que toutes les semaines, par semaine, jouer un gros match. C'est vrai, mais tu peux pas te cacher, à mon avis, derrière ça peut être une part de l'explication. Mais ça peut pas, c'est trop facile de dire que c'est que ça.
J'ai pas l'impression que les interviews et que le débat, c'est ça, c'est pas que ça. Mais moi, pour moi, c'est une des explications de ce qui se passe depuis 8 ans. C'est même une des explications majeures pour moi. Il y a d'autres raisons sur la mentalité des joueurs. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur le cas de, tu dis, cette équipe-là. Je compare le même club avec des générations différentes, hein, c'est-à-dire Paris 90, avec les Ginola, les Ouéa, les Valdo, les Ricardo, les Roche, les Lama, les Bravo, les Guérin, tout ça. Des garçons que tu as connus puisque tu as joué en équipe de France avec eux. Moi, je pense que mentalement, c'était plus fort. Et je pense que si ça joue aujourd'hui contre, je pense que ça se fait bouger, mais grave. Voilà, parce que tu m'enlèveras pas de l'esprit que ça se cultive, cette mentalité d'aller toujours chercher à écraser l'adversaire. Ça se cultive, mais c'est quand même une qualité. Ça se cultive avec un championnat qui est fort, mais c'est une qualité que tu as quand même au départ. C'est-à-dire que si tu es un tendron, eh ben, tu resteras un tendron. Tu vois, voilà, je passe.
Très bien. Du gars, t'as pas été 100% convaincu, mais bon.
Non, mais on est d'accord sur le fond. On est d'accord. C'est une raison. Moi, là où je suis moins d'accord avec Eric, c'est que c'est une des raisons essentielles pour lui. Pour moi, c'est une raison qui est secondaire. Voilà. Pour moi, c'est pas la raison essentielle. Si j'avais un peu plus de professionnalisme, plus de concentration, un peu moins d'anniversaire, un peu moins de carnaval, un peu moins de.
Oui, mais est-ce que c'est pas parce que c'est facile aussi qu'il faut tout ça?
Peut-être.
Ben oui, mais ouais.
Et il y a un autre truc qu'il leur faudrait peut-être, du gars, c'est avoir conscience que ces résultats en Ligue 1 n'ont pas de valeur. Tu vois, parfois on a l'impression, Thomas Tuchel le premier, on l'entend dire, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire, c'est exceptionnel, c'est pas facile de gagner les matchs en Ligue 1, etc. Peut-être aussi que les joueurs, ils entendent ça, ils se disent, bah attendez, vous avez vu comment on se balade en Ligue 1, ça va faire pareil en Ligue des Champions. Alors que s'ils avaient conscience qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur à ces performances en Ligue 1, ils se seraient peut-être moins surpris en Ligue des Champions.
Tu te racontes que, il y a une année, quand ils viennent, l'année où ils viennent au Stade Vélodrome et que Cavani égale sur la fin, un match où il passe à côté au niveau de l'état d'esprit, que les mecs t'expliquent à la fin du match que bon, bah, c'était un match comme les autres pour eux.
Oui, Mbappé avait dit ça, notamment.
Non, pas que. Si lui le dit, c'est que c'est cinéma le vestiaire. Tu vois, c'est si ça, c'est pas. C'est pas un signe de la mentalité qu'il y a dans le vestiaire et dans la mentalité des joueurs qui composent cette équipe-là. C'est quand même, tu vois.
Alors, supporters du PSG 32-16, on va vous donner la parole sur ce débat, évidemment. Juste avant, je voudrais quand même vous relayer nos infos RMC Sport concernant Thiago Silva, qui l'a mauvaise, clairement. L'entourage du joueur a expliqué qu'il avait du mal à comprendre donc que Leonardo refuse de le prolonger. Cette saison, il se sentait au top avant l'arrêt. Il avait faim et même s'il a 35 ans, il se sent très en forme et a du mal à comprendre cette décision.
Oui. Elle est logique, sa déception. Il fait une belle année, il fait une grande année, Thiago Silva. Voilà, il a aussi sa responsabilité dans la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, il fait une belle année. Moi, je la comprends, sa déception. Après, ce que je veux dire, c'est que je comprends sa déception, mais il faut aussi qu'il comprenne la stratégie du club. Il faut respecter.
Pareil, Dugas.
Pardon?
C'est pareil, Dugas. Comment, quand tu es un joueur de très haut niveau avec de grandes ambitions et quand tu es avec une mentalité irréprochable, comment tu peux être déçu qu'à 35 ans, tu ne te prolonges pas quand tu n'es jamais sorti des quarts de finale de Ligue des Champions? Tu ne te remets jamais en cause? Oui. Jamais à un moment donné, tu te dis, bon, ben peut-être que voilà, j'ai fait mon temps.
Mais Eric, c'est exactement ce que je disais juste avant. Il dit, il se sentait très en forme, tout était formidable cette saison.
Oui, ben oui, il était bon, mais en forme, Ligue 1.
Mais voilà, en Ligue 1.
Exactement.
Le retour de Dortmund, il est dans les tribunes. Voilà. L'année, il est sur le terrain.
Voilà. Et puis il recule en Ligue des Champions. Il recule tellement qu'il a peur de se faire prendre dans le dos, alors qu'à Ligue 1, ça ne lui arrive jamais. Ça, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Hein.
Mais tu as raison.
C'est-à-dire, si tu es jamais mis en difficulté quand tu es défenseur, En Ligue 1, comment tu veux avoir les bons réflexes, c'est-à-dire aller chasser haut, aller faire ce que font les grosses équipes qui vont au bout en Ligue des Champions. On a fait le débat ensemble, du gars, sur cette, le fait de reculer dans les grands matchs.
Tu as raison, mais peut-être qu'il se dit, je suis pas là, j'ai l'impression d'être le responsable, on m'accuse à moi, alors qu'il y en avait d'autres. Il y a eu Verratti, il y a eu Marquinhos.
J'espère que Cavani reste pas non plus, tu vois.
Il y a Verratti aussi,
autour de lui.
Après, il faut respecter aussi le choix des clubs. Les stratégies des
bien
clubs.
Sûr. Mais après, pour les joueurs, c'est compliqué. Il a l'impression de faire une grosse saison et il n'a pas la même vision globale que le club aussi.
Tu dois avoir des exemples à Paris, Jean-Louis, parce que moi, je compare toujours cette génération qui a eu des grands résultats européens à Paris. Mais je pense qu'il y a des garçons qui sont partis, qui ont été remerciés alors qu'ils ont apporté énormément. Moi, j'ai l'exemple ici des Waddle, des Papen, des Francescoli, des Monzer.
Ouéa et Ginola quittent le club un an avant la victoire en Coupe des
Vainqueurs. Donc, il n'y a pas de entraîneurs. Il y a même des entraîneurs qui se sont fait virer alors qu'ils étaient quoi, premier au classement ou un truc comme ça au PSG, deuxième. Donc bon,
alors, sur les infos, je voulais quand même vous signaler que Thiago Silva veut quand même finir la saison, jouer la Ligue des Champions, même si au niveau des négociations, il fera aucun cadeau. Hein, il l'a montré aussi avec les histoires salariales pendant l'arrêt. Et puis pour le reste, eh ben, il aimerait bien une dernière aventure en Europe avant peut-être de rentrer jouer au Brésil. Et puis autre info que nous envoie Loïc Tanzi à l'instant concernant donc Tanguy Kouassi, il va s'engager avec le Bayern. Voilà, la décision, donc pour Kouassi.
Là, par contre, il va falloir m'expliquer. Non, mais je ne sais pas comment ça va se passer au Bayern, mais le Bayern, ils ont un effectif impressionnant.
Bon, mais regarde, les jeunes, ils jouent là-bas.
Ouais, mais même Tolisso, même Tolisso, il joue plus.
Même Tolisso est un bon sorti, oui, pour repartir.
Justement,
mais même Hernandez, pour un défenseur.
Il y en a plein qui jouent pas, c'est un club.
Il est champion du monde, peut-être le meilleur défenseur de la Coupe du Monde, et il joue pas au Bayern. C'est pas facile.
Parce qu'il a été blessé aussi, et puis voilà, c'est les péripéties dans le club, mais.
Après, j'ai pas l'impression que le temps de jeu soit la priorité, hein.
Oui, mais attention, je trouve qu'aujourd'hui, le Bayern, justement, a réussi, j'ai l'impression, à se renouveler avec une nouvelle génération qui est en train d'arriver, donc une équipe qui est en train de se mettre en place, où ils sont quand même assez monstrueux, on l'a vu en Ligue des Champions, essayer de t'imposer, peut-être aujourd'hui, dans, à mon avis, une des équipes les meilleures d'Europe, c'est un sacré challenge. Que tu finis au Bayern ou à Liverpool, là c'est compliqué de se faire de la place, parce que c'est des équipes qui sont réglées, qui ont des jeunes joueurs qui sont en place, qui jouent bien, qui ont une
capacité
de jeu forte. Là, ça va être compliqué. Il y a des joueurs plus talentueux de Kouassi que Kouassi. Pour l'instant, je lui souhaite le meilleur à ce garçon qui ne joue pas et qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, voire très peu.
Je vous rappelle ce que nous a expliqué Loïc Tanzi hier. Le critère numéro 1 pour Kouassi, c'était la stabilité du club. L'offre que lui a fait le PSG en termes de temps de jeu et financièrement était supérieure à toutes les autres, mais lui, il trouve qu'au PSG, il n'y a pas assez de stabilité au niveau de la direction, avec les changements de directeur sportif de partout. Là, en Allemagne, au Bayern, même si l'entraîneur change, tu sais que tu as Rummenigge et Salihamidzic à la direction. On sait que Rummenigge va partir en 2021, on sait déjà que c'est Oliver Kahn qui va le remplacer, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est carré au Bayern. Même si après, il y a l'histoire du temps de jeu, oui.
Ouais, je comprends pas cette façon de voir les choses. À son âge, il faut avoir du temps de jeu, et ça me paraît être bien plus important que la stabilité du club. Après, bon, c'est son choix. On verra bien ce que ça donne.
Théo Tim nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Bonsoir Théo Tim. Ah non, de Bordeaux.
Bonsoir. Bonjour à tous.
Salut Théo, bonsoir. Supporter du PSG, Théo ?
Non, de Bordeaux.
De Bordeaux, d'accord, ok.
De Bordeaux.
Tu jures
Je suis totalement d'accord avec toi, du coup, sur tout ce que tu as dit sur Paris. Je pense que ça. Enfin, d'autres clubs sont dans la même situation, avec des rendez-vous en championnat beaucoup moins intenses, avec des équipes beaucoup plus faibles. Et c'est pas du tout une raison valable pour les mauvais résultats en Ligue des Champions depuis tant d'années.
C'est pas une excuse pour ne pas passer les huitièmes de finale.
Comme
après, pour pas la gagner, c'est autre chose. Mais les huitièmes de finale.
Qui comme club?
Mais oui, toutes les fois où ils se sont fait sortir juste parce qu'ils ont fait. Pour moi, ça s'appelle ça des fautes professionnelles. Hein. Les matchs retour, c'était des fautes professionnelles carrément. C'était pas
un problème d'intensité. Ouais.
Quel club, puisque tu as dit, il y en a plein comme ça, c'est où alors? Explique-moi.
Mais regardez le Real, juste, ils se mettent à jouer le Real en février pour la Ligue des Champions.
Ah donc, tu es en train de m'expliquer que le championnat d'Espagne n'est pas relevé et que le Real n'a pas des gros matchs à jouer. C'est ce que tu es en train de m'expliquer là quand même.
Mais attends, des gros matchs, mais on parle de Séville et Valence du coup?
Et comment tu le regardes pas le championnat espagnol, tu regardes pas l'Atlético, tu regardes pas le Barça, tu regardes pas le Real justement cette année, tu regardes pas le Séville cette année.
Mais le, le Barça au match retour contre le PSG, quand ils font la remontada, ils ont, le week-end d'avant, ils ont pas joué contre un très gros club, mais ils sont quand même venus, ils se sont dit, on va le faire. Puis ils l'ont fait. Enfin, mentalement, les gens, cette équipe-là, elles sont prêtes pour la Ligue des Champions. Pour les gros matchs.
Et donc toi tu penses que ce qui se passe en championnat toutes les semaines, dans un championnat où toutes les équipes jouent, où techniquement c'est du haut niveau, tu penses que ça sert pas le Barça et le Real pour flamber en Ligue des Champions, toi? Voir l'Atlético d'ailleurs, puisque c'est les trois.
Mais c'est pas la raison principale, ça fait partie des raisons, mais c'est pas la plus importante.
D'accord, et c'est laquelle la plus importante pour toi du coup?
La plus importante, c'est la motivation. C'est ce qu'ils ont envie de faire en Ligue des Champions.
Ah, donc c'est pas motivé en Ligue des Champions. Donc le mec qui vient, c'est un match de patronage.
Ben, on a l'impression qu'ils sont pas motivés en Ligue des Champions quand ils font les matchs qu'ils ont fait en match retour sur toutes les compétitions là, depuis 3-4 ans en Ligue des Champions quand même.
Théo, parle sereinement, ne t'inquiète pas, interrogation écrite avec le proviseur.
Non, mais non, mais j'essaie de comprendre le raisonnement. Après, il me paraît pose des questions.
Mais sincèrement, il y a un match qui est un des matchs les plus proches où ça a été le cas. Souviens-toi le match au Real Madrid, le match pourri qu'ils font, sans intensité, sans envie, sans rien du tout. C'est pas la faute de la Ligue 1, ça fait partie des matchs de poule. Tu vas jouer à Bernabéu, c'est un match extraordinaire. Tout le monde attend, ils se font bouger, c'est quand même pas la faute à la Ligue 1 si au mois d'octobre ou c'était même avant un match aussi important tu passes autant à côté, tu t'es pas dans ton match, t'es pas dans le combat, t'es pas dans l'envie.
Je suis pas d'accord avec vous.
C'est la faute à Amiens, c'est la faute à Toulouse, c'est la faute à tout ça.
Tu vois, tu caricatures le truc. Je te dis juste que sur des matchs comme ça où l'adversaire est capable de monter de 1 voire 2 crans parce que eux en championnat très régulièrement ils ont en face d'eux des équipes qui leur posent des gros problèmes, une équipe comme Paris qui, elle, n'est pas obligée de monter d'un cran, ne serait-ce que d'un cran en Ligue 1, la marche est trop haute, ils n'y arrivent pas, c'est tout. C'est là où, justement, je comprends pas votre raisonnement.
Parce que c'est pas normal, du coup.
Mais pourtant, avant Dortmund, ils ont eu un match compliqué en championnat, ils ont fait 4-4 à Amiens. Et ils ont perdu après à Dortmund, alors qu'ils ont été poussés
Pastore, il a été blessé pendant 4 ans. Pastore, il a été blessé pendant 4 ans au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que l'intensité de la Ligue des Champions était trop élevée.
De la Ligue 1, oui. De la Ligue 1.
Mais moi je pense quand même qu'il faut écouter les mecs quand ils parlent quand même quoi. Moi je trouve que vous balayez cet argument là un petit peu trop facilement. Je trouve on est tous d'accord que c'est pas la seule raison. Pour moi c'est une des raisons essentielle.
Ils la gagneront jamais alors, Eric, parce que ça changera jamais la Ligue 1.
On abandonne tout.
Le Paris Saint-Germain, ils gagneront jamais la Ligue des Champions. C'est terminé. Allez. Même pas une demi-finale, rien, allez, c'est réglé. On va passer à autre chose.
Mais en tout cas, on a bien vu les points de vue et ça fait marrer Théo Team. Merci d'être venu au 32-16, en tout cas.
Pas de souci.
Salut Théo Team, à bientôt.
Il m'avait manqué ce duo-là. Juste vous deux, là, Eric Dugas, là, à se renifler, à se retourner autour et tout en disant on prend des précautions.
Ça
explose.
J'ai compris que c'était pas la. Mais j'ai pas compris les raisons, du coup. Parce que moi, si on me dit c'est parce que les mecs, ils ont pas le moral, oui. Le mental, pas le moral.
L'exigence.
C'est vrai qu'ils sont pas tous internationaux. C'est vrai qu'ils flamment pas leur équipe nationale pour la plupart. C'est vrai que non, c'est les petits joueurs qui découvrent la Ligue des Champions régulièrement.
Ouais, c'est vrai, Amiens, Toulouse, c'est vraiment c'est des points. Ils servent à rien. Faut les virer de la Ligue. Allez, c'est pas compliqué.
Mais dis-moi, alors juste toi, quand tu me fais les débriefs les lundis de la Ligue 1, et là, donc tu es en train de nous vendre des monstres. C'est-à-dire que tu les regardes les matchs de Ligue 1, parce que moi, je veux bien. On essaie de nous expliquer que ailleurs aussi il y a des petites équipes et ailleurs aussi il y a des matchs de purge. Mais je fais la Première Ligue depuis 3 ans maintenant. Je regarde un peu les matchs ailleurs. Mais même les équipes qui sont moyennes en Angleterre, tu as vu le rythme qu'elles mettent dans les matchs.
Parce que tu t'es souvent plein de l'intensité en Ligue 1. On va en rester là-bas.
Moi, c'est la technique. Moi, je me suis plein. Pas forcément l'intensité. C'est les pieds tordus.
Le rythme, tu nous en as déjà parlé souvent.
Trop de pieds tordus. Trop, beaucoup trop.
Oui, mais t'as toujours dit que les pieds tordus, à un moment donné, tu peux rien.
Quand t'as les pieds tordus, t'essaies un peu de courir.
J'écoute ce que tu dis.
Ce qu'il faut faire, c'est moi, je serai les.
Tu te souviens de ce
Je me mettrai en sparring partenaire. C'est-à-dire que je ferai tout. Je me dirai, je vais faire un match pour mettre beaucoup d'intensité, pour servir le Paris Saint-Germain. Comme ça va leur permettre d'aller loin en Ligue des Champions. Non, mais tu as encore le raisonnement. J'ai trouvé ça extraordinaire.
On va arrêter. Dans un instant, Mbaye Niang, S'y est-il mal pris pour rejoindre l'OM? On va revenir en détail sur ses prises de position et vous donner les infos RMC Sport sur ce dossier. À tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h33, Tim Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Eric Dimeco. Bon Jean-Louis, c'est le moment de parler de Mbaye Niang qui va peut-être rester du côté de Rennes.
Exactement, et puis il y aura le journal moyen à 18h45 avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut les copains. Adil Rami en grande forme. Il y a des jours où Adil Rami n'est pas en forme, là il est en forme et il fait son retour dans le journal moyen. Et j'ai un inédit Manu Petit dans la grande collection des Manu, sorti hier soir, une petite nouveauté de Manu.
Mais dans Tim Dugas ?
Non, précisément dans le podcast.
Ah oui, oui,
Paris j'ai entendu. Saint-Germain. Oui.
Très bien.
Une sorte de fou. Voilà.
Très bien. Parfait, merci à Adrien. À tout à l'heure pour le journal moyen. Mohamed Bouafsi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Dugas, bonsoir Eric.
Salut.
Le dossier Mbaye Niang tout de suite donc avec toi. Puisque donc lui qui avait fait une déclaration d'amour envers l'OM, ensuite on a appris qu'il discutait, enfin en tout cas que le club discutait avec un club du Qatar. Bon, tu vas nous dire si c'est vrai ou pas. Et hier on l'a finalement entendu ou lu en train de dire serais-tu contre poursuivre l'aventure à Rennes? Il a répondu: j'ai jamais dit ça, au contraire même. Alors, qu'en est-il donc sur Mbaye Niang?
Alors, le point à date, comme on dit très souvent dans le football, messieurs, c'est très simple, c'est qu'il n'y a absolument rien de neuf. En clair, aucune discussion n'a démarré entre l'OM. Non mais Dugas, tu sais, j'ai remarqué depuis quelques semaines et quelques années de ma petite expérience dans le football, c'est qu'il faut souvent répéter, faut souvent redire les choses aux gens parce qu'on a souvent les mêmes questions et je peux comprendre parfois que les auditeurs ne puissent pas être tout le temps dans Tim Dugas ou que les followers sur Internet ou sur les réseaux sociaux ne puissent pas être tout le temps sur leur téléphone portable. Donc il faut parfois redonner les temps de passage, j'ai envie de dire, d'une actualité. Et là, il n'y a aucune discussion entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, même pas un appel ou une offre concrète. Il ne se passe rien entre les deux clubs. Le Stade Rennais a désormais des intérêts concrets de clubs anglais et même un club au Qatar. Ce club, il s'agit d'Al Dwail. Rennes demande au moins 20 millions d'euros pour le joueur. Le joueur, lui, n'a pas avancé dans les discussions avec un club plus particulier aussi. On sait que le Qatar a beaucoup d'argent. Le Qatar est intéressé par son profil. On sait qu'il y a beaucoup de clubs aussi anglais qui l'aiment bien comme Watford, Everton ou Tottenham. Donc voilà, pour l'instant, la situation, elle est comme ça. Et il faut rappeler aussi aux supporters de l'Olympique de Marseille que Marseille ne peut pas sortir 20 millions d'euros le 16 juin de son portefeuille parce que Marseille ne les a pas et que Marseille doit vendre d'abord avant de pouvoir bouger sur plusieurs opérations.
Est-ce que Dugas, quelle que soit l'issue de cette affaire, il n'a pas agi de la pierre des façons possibles, Mbaye Niang?
Non, mais je sais pas. Après, qu'est-ce qu'il a dit exactement dans tout ce que l'on entend? On sait pas vraiment non plus. Qu'est-ce qui est de l'investigation d'un journaliste? Qu'est-ce qui est de d'une écoute dans des coulisses? On sait pas exactement ce qui a été dit. Moi, le conseil que j'ai envie de lui donner au gamin, c'était toi. Tu vas pas à chaque fois donner ton avis. Chaque fois qu'un journaliste va te poser la question sur le Qatar, Marseille, l'Angleterre, Rennes ou quoi, tu vas chaque fois donner ton avis. Arrête. Voilà. Pour l'instant, rien n'est fait. Tu dis, je suis très bien à Rennes. C'est pas le sujet. Enfin, des phrases bateau, il y en a. Au bout d'un moment, il faut qu'il arrête de s'exposer comme ça.
L'OM m'intéresse, hein, ça, il l'a dit clairement. Hein.
Il a même pas à se prononcer sur ça.
À l'arrivée, il reste à Rennes, il sera quand même dans une position délicate vis-à-vis des supporters rennais.
Mais c'est qu'il a qu'à dire aussi, le Real Madrid m'intéresse aussi. Il sait aussi, son agent sait aussi que Marseille, aujourd'hui, n'a pas 20 millions d'euros à donner. On sait qu'ils ont des problèmes financiers, donc ce ne sera pas possible. Au bout d'un moment, c'est à toi de sentir un peu. Tu sais, la période du mercato, c'est une période compliquée effectivement parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension, c'est difficile pour le joueur aussi, qui a peut-être envie de partir, qui a envie de rester, j'en sais rien, ou envie d'aller ailleurs, je sais pas, qui se dit je vais gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois mon salaire. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. T'as la famille, t'as la pression, t'as ton fils, l'école, enfin il y a plein de choses, mais il faut garder raison, garde du calme, laisse travailler tes agents, laisse faire ton club, et puis au bout d'un moment, de toute façon personne t'obligera à signer là où t'as pas envie de signer. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il garde. C'est un garçon qui n'a pas brillé ces dernières années par sa communication, par sa régularité aussi dans le jeu. Ça a été compliqué. Il a fait beaucoup de clubs. Il sait ce que c'est que d'être baladé à droite à gauche, d'être prêté à droite à gauche. Sois tranquille, sois serein. Je trouve qu'il s'y prend mal. Alors j'espère que ça ne va rien remettre en cause pour le gamin. Mais arrête de t'exprimer à tout bout de champ. Ça n'a aucune valeur d'être présent tous les jours dans la presse, dans l'équipe ou dans les médias pour dire je vais ci, je vais là. Et à l'arrivée, tu vas rester à Rennes, tu vas la queue entre les jambes, tu vas passer pour un débile. Donc arrête, ça sert à rien. Tu feras tes déclarations le jour où tu auras signé dans un club et là tu pourras faire toutes les déclarations d'amour que tu veux. Pour l'instant, il s'y prend mal, à mon avis.
Eric, tu es d'accord avec Dugas?
Pas mieux.
Je suis pas habitué à ça, moi.
Non, mais là, on est dans une période un peu particulière. En plus, on l'a vu à Marseille. Donc, de suite, les gens ont fantasmé. Alors que, d'après ce que j'ai compris, il a une attache à Marseille. Il est venu, même aussi pour les courses, d'après ce que j'ai compris. Voilà,
je vais tout dire. Je te laisse finir, Eric. Je vais te donner toutes les informations.
Pas les supermarchés.
Pas uniquement.
Attention, les supermarchés sont très bien.
Il adore aller à Paris,
il a pénurie très vite. Hein, il n'y avait plus de pâtes dans les rayons.
Il y en a qui sont partis les acheter au Brésil. Lui, il est venu à Marseille.
Le centre commercial à côté de l'aéroport, comment ça s'appelle?
Plan de campagne.
Il adore faire les courses à plan de campagne, c'est pour ça.
Très bien.
Non, mais plus sérieusement, pour essayer un peu de donner des informations pour le défendre, il faut savoir que sa compagne, sa femme, est marseillaise. Donc tous ses amis sont originaires de Marseille. Il est passé à Marseille, il a passé quelques jours, il était il y a encore quelques jours à Marseille pour être avec sa compagne et ses enfants. Et on connaît bien l'environnement marseillais. Il a été manger avec Bounassar, qui est l'un de ses amis, par exemple. Ils ont posté une story sur Instagram tout de suite. Il y a eu, comme par hasard, 150 supporters qui l'ont croisé et qui ont dit il m'a dit qu'il allait signer à l'Olympique de Marseille, ce qui n'était pas le cas. Il a juste passé quelques jours dans la région marseillaise.
Qu'on est menteur à Marseille, c'est pas beau.
On n'est pas menteur, mais on exagère un petit peu parfois la situation. Et donc, comme par hasard, il y a 350 personnes qui l'ont croisé en quelques jours sur Marseille. Il a toujours rêvé de jouer à l'Olympique de Marseille depuis qu'il était tout jeune. Aujourd'hui, il y a cette situation-là. Du gars, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des éléments, sa famille, ses proches qui sont là-bas. Lui a passé quelques jours là-bas, donc il a pas caché son amour pour l'OM. Il a été peut-être maladroit, mais il sera à la reprise. Il sera à la reprise du Stade Rennais. Il sera au centre d'entraînement. Et ça, il y a pas de souci. Après, c'est vrai que dans le mercato, on pose des questions et parfois on peut être maladroit.
Mais c'est aussi ça le travail des agents. Au bout d'un moment, il faut entourer, il faut encadrer, même si c'est plus un gamin, Niang. Mais au bout d'un moment, c'est là qu'il faut être, à l'écoute aussi de ce que c'est que la communication, qu'est-ce que ça représente. Et puis il y en a qui balancent. Ta reine qui va balancer pour faire monter peut-être des fausses informations, pour faire monter le prix du joueur. Marseille qui va dire qu'il y a au bout d'un moment peut-être qu'ils sont pas intéressés pour faire baisser le prix du joueur. Là, tu rentres dans un espèce de jeu de dupe, de jeu de et c'est la règle du jeu, c'est le commerce, c'est l'offre et la demande. Donc au bout d'un moment, le gamin, il doit pas se mettre là-dedans et son agent, il doit le raisonner. Ça sert à rien autrement. Il va avoir des ascenseurs émotionnels et c'est moche pour lui. À l'arrivée, il va faire la préparation, il va se blesser. Le premier match de préparation, il va se blesser parce qu'il sera tellement pris la tête à vouloir rester, à vouloir partir ici et là que ça va mal se passer.
Après, quand tu regardes de sa carrière, il a pas l'air de se prendre trop la tête, quoi, tu vois.
Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il a changé de club tous les 6 mois aussi.
Oui,
mais
voilà. C'est un choix, mais j'ai pas l'impression qu'il soit traumatisé par rapport à sa carrière ou à ce qu'il fait dans sa carrière. Voilà. Et puis ensuite, après, des fois, tu subis aussi ce qu'on dit sur toi.
Pour ça qu'il faut qu'il laisse les autres parler à sa place, mais qu'il lui ne
s'est pas beaucoup parlé, lui. Ouais. Il a beaucoup parlé, mon
gars. Non, il a parlé. Il a parlé deux fois. Il a accordé une interview au CFC.
Deux fois, c'est deux fois de trop.
Quand les mecs parlent de mercato, il faut qu'ils parlent.
Il a accordé une interview au CFC où il a dit que Marseille, il aimerait jouer un jour là-bas, ce qu'a fait Christophe Galtier par exemple ce week-end, et il a parler, ça c'est vrai, et ça du gars on peut trouver ça maladroit, je te rejoins, c'est vrai qu'il a fait un Instagram live et il a répondu à un Instagram live il y a quelques jours où il a dit Marseille ça me plairait, mais il a tout de suite corrigé quelques jours après en disant qu'il allait être à Rennes et qu'il serait heureux de continuer à Rennes aussi.
Moi j'ai souvenir que Duga avait dit que l'OM ça l'intéresserait un jour aussi. À l'époque, je me souviens,
Mohamed il fait ce qu'il veut, le gamin qui continue à s'exprimer toutes les semaines, ça, si ça l'amuse, si ça le rend très bien, voilà.
Non, pas du tout, mais c'est un problème.
Jean-Louis me demande mon avis, c'est un sujet, je dis ce que je pense, après s'il a envie de s'exprimer. Eric trouve ça très bien. Toi tu dis que c'est pas très grave non plus, qu'il a été maladroit.
Non, moi je dis que c'est maladroit.
Mais qui continue avec ses maladresses, ce n'est que des maladresses, il n'y a rien de grave non plus, on est bien d'accord.
Moi je trouve quand même c'est très très grave ce qui se passe. Merci Mohamed.
Moi j'aurais adoré voir les réseaux sociaux à l'époque de Duga, d'Eric, etc. Je pense qu'on aurait eu des perles magnifiques.
Surtout, on aurait eu des photos de ce qui se passait parfois.
Heureusement, parce que c'est vrai que là, les réseaux sociaux alimentent aussi les fantasmes en ce moment, surtout pendant le confinement. Là. Les mecs, ils se filmaient.
Tous les jours, des gens se filmaient pour faire des lives.
Je vais pas plus loin. Donc, les mecs, c'est tout.
Comment pas.
Merci Mohamed. Bonne soirée. Merci
monsieur. Bonne soirée.
Le journal du Moyen. Adrien Aigouin, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h48, Tim Dugas continue avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour. Mon Jean-Louis, à partir de 19h, nous allons revenir sur un match de légende, le match de France-Allemagne, la Coupe du Monde en 82.
Exactement, tous les détails de cette rencontre juste après 19h. Tout de suite, c'est le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas, aujourd'hui sur RMC, Manu Petit nous fera un petit coucou avec une petite nouveauté inédite pour nous, pour le journal moyen. Adil Rami nous parle musique, et puis le retour vers le futur, j'aime bien ça, comme le France 82. Aujourd'hui, le jour où le petit cœur d'Eric Dimeco a pleuré. Saigné, il était triste, le petit Cruyff. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC?
Non, j'ai pas ressorti ça.
Non, pas ça, Eric. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. C'est le 338e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas et pas du sport.
En direct de la rédaction d'RMC Sport,
c'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
J'ai un nouveau Manu, rapide. Manu Petit, hier sur RMC, nous parle des scouts du Paris Saint-Germain, les membres du club qui observent les joueurs dans les autres clubs chez les jeunes.
Les scouts du Paris Saint-Germain, pour me dire, le PSG veut absolument que tu signes dans l'académie. Dans ma tête, je me dis, ouais, mais combien de joueurs issus de l'académie ont pu faire leur trou au soleil au sein de l'équipe 1?
Le fameux trou au soleil, bien connu. Merci.
C'est Manu. Le trou au soleil. La, 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 la.
Sans transition, on reste en musique, c'est l'instant d'Adil Rami.
Ouais, c'est pareil. Tu n'es pas content de me voir.
J'adore, tu fais le show.
Ah, je suis ton clown alors.
Adil Rami, le copain de Tim Dugas, copain d'RMC, a publié une vidéo sur Instagram. Vidéo dans sa voiture, dans laquelle il écoute de la musique. Et moi, avant d'écouter, avant de déclencher le son, je me suis dit, comme beaucoup de joueurs de foot, il doit écouter DJ Snake. Peut-être Us l'enfoiré. Je sais que Jean-Louis, tu es fan, toi. Ou bien Us l'enfoiré. Ou bien Gradur. Ça, c'est le chanteur préféré de Dugas.
Ouais.
Mais non.
Ils reviennent au blind test, hein, ces gens-là.
Mais oui, parfois. Oui. Us l'enfoiré. Il était candidat à la chanson de l'année chez Nikos Aliagas. Écoutez, surprise, Adil est avec donc un copain à lui dans la voiture et il écoute ça. Il est à fond.
Johnny.
Et oui, Adil Rami dans sa voiture. Écoute, du Johnny Hallyday, puisqu'hier, Johnny aurait fêté ses 77 ans. Adil assume totalement.
Hey, je te jure, moi, j'aime trop écouter du Johnny. J'écoute de tout, mais tout. Commencez pas à me dire, ouais, mais c'est quoi ce son que t'écoutes?
Voilà.
Tu dis des bêtises.
Il assume.
Écoute tes paroles. Écoute les chansons qu'il fait, le rock'n'roll là, qui vient en toi, ou allumer le feu, là, t'as envie de tout péter. C'était pas toi tout ça, putain.
Il est en forme, il écoute du Johnny, voilà, il rend hommage à Johnny.
Quand il écoutera Osiris dans la voiture là, oh là là, quelle folie ce sera.
Il se met même, il n'y a pas que le rock chez Johnny, il y a du blues, et il aime le blues, Adil, dans sa voiture. Il chante.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues.
Adil Rami. Pour Adil Rami, il annonce la couleur carrément. Hier, c'était une journée Johnny.
Ah ouais, aujourd'hui, ça va être du Johnny, Johnny, Johnny. Aujourd'hui, c'est Johnny. Ça me chauffe. Je laisse le blues rentrer en moi, le rock'n'roll. T'as compris?
Eh oui, on a compris.
Point, barre, c'est tout.
Et voilà, c'est reparti. Il poursuit son chemin.
C'est d'ailleurs, bien, il faut tout écouter,
oui,
dans la vie.
Et puis il s'éclate. Et puis il révèle, je sais pas si vous l'a dit dans cette même vidéo, qu'il va sortir un livre, Adil Rami, sur lui, sur sa vie. Et il annonce dans la vidéo, il dit c'est sans filtre. Donc à surveiller, peut-être l'occasion de le recevoir prochainement.
Bien sûr, il est toujours le bienvenu.
Eh oui, sans transition, elle nous manque. Ah oui, la Ligue des Champions nous manque. Elle manque aux joueurs, c'est plutôt rassurant. Du gars, je t'entends souvent dire, les joueurs s'intéressent plus vraiment au foot. Il y en a un qui est en manque de foot, Lucas Moura, le Brésilien de Tottenham. Lucas a publié une vidéo sur Instagram. Alors dans cette vidéo, on le voit vivre au quotidien avec un ballon. Donc il a mis cette musique là, et dans cette vidéo, on le voit avec ce ballon. Il lave les dents du ballon. Quand il est à table, il fait le manger, le ballon à côté de lui. Quand il joue aux cartes, il joue aux cartes avec ce ballon de foot. Il dort avec ce ballon. Est-ce que tu as une idée d'où vient ce ballon, Dugas? Toi, Eric, je sais que tu sais.
Oui. Non.
C'est le ballon du match. D'un match qui a eu lieu le 8 mai 2019.
Oui, il le sait, Dugas. Il l'avait pronostiqué.
Oui. Dugas, tu avais annoncé son triplé à Lucas. Demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Ajax, Amsterdam, Tottenham. 3-2 pour les Anglais qualifiés. Et donc, triplé, hat-trick de Lucas qui a gardé le ballon. Qui vit donc avec le ballon, qui était très attaché à lui. Et je voulais revenir sur ce match. C'est une histoire qui a blessé un membre de la Dream Team. puisqu'il y a un an, celui qui petit garçon au club de Robion était surnommé le petit Cruyff, s'est pris d'amour pour cette jeune équipe de l'Ajax. Vous vous souvenez, il y a un an?
Quelle histoire d'amour incroyable.
L'Ajax par-ci, l'Ajax par-là, regardez, ils sont tout jeunes, ils sont énormes. Lors du quart de finale, il se qualifie, je crois, à la Juve, Eric, c'est ça. Hein. Eric est en larmes, il nous offre sa tirade historique, Eric Dimeco sur RMC Sport.
Puis c'est plus des gamins maintenant. Hein. Oui. Ce sont des messieurs.
Des jeunes adultes.
Ah non, des messieurs. Bravo messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes.
Qu'est-ce que c'est nul.
Oui, des grands hommes. Un an après, ça
c'est
fait
gênant.
Mal.
Ah
ouais, c'est aussi gênant.
Autant il y a un an, ça nous fait rire.
Ouais. Sorti du contexte, c'est quand même gênant, en effet.
Ouais. Même en vrai, c'était gênant aussi. Hein,
ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais.
Et donc, ouais, bon, après, l'Eric vivait son rêve de petit garçon. Le petit Cruyff était heureux, il pensait à sa jeunesse.
C'est surtout qu'il nous régalait, tu rigoles.
Mais lors de la demi-finale, sur le troisième but de Lucas, qui élimine l'Ajax, c'est sans montage. Écoutez la détresse du petit Cruyff sur le but de Lucas.
Hey, il faut arrêter là, je suis vieux moi, je peux y laisser mon cœur moi sur un truc comme ça là.
Les dernières secondes, le ballon de Sissoko vers Llorente, c'est maintenant ou jamais. Tottenham, Dele Alli vers Lucas.
Non, non, c'est pas possible, c'est pas vrai ce qu'il a fait Lucas.
Ils sont plus amoureux.
Qui les envoie en finale.
Mais ça c'est génial.
Lucas, c'est le cœur qui parlait, Eric. Le nom qui sort au début, c'est ton équipe qui est sortie là. C'est l'Ajax qui est sortie.
Ouais, mais après je reviens vite sur le but de Lucas parce que quand même, il fait tripler, il les amène en finale. Mais sur le coup, je suis placé dans l'axe, je vois le ballon partir avant qu'il rentre dans les filets. J'y crois pas quoi. J'y crois pas parce que c'est tellement cruel pour.
Tu n'y crois pas, mais tu le sens venir dans les minutes qui précèdent. Tu dis ça sent mauvais, Jérôme. Ça sent mauvais. C'était l'histoire du petit Cruyff de Robion.
T'as gote de cette finale, Ajax. Ajax Liverpool comme elle aurait été belle.
Au lieu de ça, on s'est fait
match de première ligue comme on a fait.
Un mauvais match de première ligue en plus. Hein, c'était pas dingue.
Merci Adrien.
À demain.
Merci Eric pour toute cette bonne humeur.
Ciao ciao les amis.
C'était génial.
Mais oui, c'est bonne humeur. Oh.
Bien sûr, on s'est régalé. À lundi prochain.
J'ose même pas imaginer quand il est en colère à la maison. Oh le rôle. Même à l'auditeur, il a sauté à la gorge.
Non mais surtout, il avait l'impression de lui parler normalement alors qu'il l'a agressé de questions.
Il sait même plus parler normalement.
Je pose des questions, j'ai fait le boulot du gars, il fait pas son boulot du gars.
Bah tiens, quoi, où c'est, soit il se fait pas chier, soit il me saute à la gorge. Moi, soit il saute à la gorge de l'auditeur.
Mais des fois les deux. Il a été gentil avec l'auditeur, c'est ça qu'il a pas compris.
Moi, il est adorable.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Oui, mais il voit pas le problème, je pense.
Ah non.
Allez, merci Eric, bonne soirée. On revient dans un instant avec Daniel Riolo, coach Courbis, Julien Cazard, Paulo Breitner. Il fallait tout ce monde là pour refaire France-Allemagne 82. À tout de suite.
RMC 18h-20h Team Dugas.